La région des Cévennes et du Languedoc est marquée par le protestantisme dès le temps de la Réforme et elle touche dès 1530-1540 des villes comme Montpellier, Nîmes, Florac, Anduze et Uzès. Les guerres de religion, la Saint-Barthélemy, les guerres du XVIIe siècle, la révolte des Camisards ont laissé des lieux de mémoire dans toute la région. Michel Barlot, théologien, docteur ès lettres en philosophie et en sciences de l'éducation, s'est intéressé à cette histoire et publie aux éditions de La Cause des chroniques huguenotes. Bonjour Michel Barlot.
Bonjour.
Alors, 14 chroniques, 14 historiettes, 14 nouvelles rassemblées dans ce recueil des éditions La Cause. Alors, vous avez donc pensé qu'il y avait encore de la place pour raconter cette mémoire protestante ?
Oui, tout à fait. Enfin, et d'autant plus peut-être que je suis un vieux monsieur, mais un jeune protestant. Ça fait simplement une dizaine d'années que j'ai le bonheur, enfin, comme je l'ai écrit dans un livre, j'ai le bonheur d'être protestant. Et donc, ça m'a semblé important de me pencher un peu sur le passé de ma famille, de ma nouvelle famille spirituelle.
Alors, vous écrivez cela, Michel, non pas pour, pour nous instruire, encore que ça doit être une des conséquences de la lecture, mais vous racontez ça sous la forme de 14 histoires, je l'ai dit, qui se déroulent dans divers temps, dans divers lieux, qui sont liés à l'histoire du protestantisme. Alors, moi, j'ai identifié comme ça des thèmes d'une façon un peu large. Par exemple, j'ai pu m'apercevoir que la question de l'œcuménisme, qui serait un mot inapproprié, bien sûr, pour le XVIe siècle, mais cette question-là traverse le livre à plusieurs endroits. Par exemple, avec la première nouvelle, il y avait une source fraîche au milieu du brasier, mais encore pourvu que la confiture soit bonne, et aussi la dernière, mais la dernière, on y reviendra plus tard. Donc cette question du protestantisme, du catholicisme, vous arrivez à les lier dans au moins ces trois nouvelles.
Oui, c'est vrai. D'abord, je pense que ça tient à mes racines. Et oui. Puis, effectivement, j'ai écrit les nouvelles comme on écrit un roman, enfin on y reviendra, comme un roman historique, c'est-à-dire qu'il a des sources dans la réalité vécue d'autrefois. Puis en même temps, il y a une part d'imaginaire, enfin on habite les personnages, on habite l'époque. Et c'est a posteriori que je me suis aperçu que finalement l'écuménisme, si on peut déjà l'appeler écuméniste à ce moment-là, était déjà présent. Et c'est vrai que, par exemple, les historiens ont repéré qu'il y avait des personnes catholiques, il y avait des institutions, des couvents, par exemple, qui avaient recueilli les protestants persécutés, comme plus tard, les juifs persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale ont été recueillis dans des institutions catholiques. Et c'est le cas, par exemple, de la toute première nouvelle qui se passe pendant la nuit de la Saint-Barthélemy.
Une autre thématique encore que j'ai pu identifier dans plusieurs des nouvelles, c'est par exemple la place chez ces protestants de la culture de l'écrit, de la lecture de la Bible, de la place du livre et des histoires aussi racontées sur leur propre histoire. Par exemple, l'imprimeresse ou encore le nouvel exode des enfants de Dieu. C'est une des thématiques que vous avez voulu montrer a priori.
Non, je n'ai pas voulu montrer quoi que ce soit. En fait, je pense que le livre est né un petit peu en écho à la lecture de ce livre magnifique du professeur Cabanel sur l'histoire des protestants français. Et il y a certains faits historiques qu'il relate, avec beaucoup de talent d'ailleurs, il faut bien le dire, hein, qui m'ont frappé. En particulier, comme vous dites, cette culture de l'écrit et l'importance de l'imprimerie en particulier. Et les historiens avec lui repèrent que dans cette histoire, les femmes ont joué un rôle important. Par exemple, l'imprimeresse, on pourrait croire que c'est quelque chose de tout à fait imaginaire, qu'au XVIe siècle, les femmes n'auraient jamais pu diriger une imprimerie. Or, il se trouve qu'effectivement, à Paris, par exemple, 10% des imprimeries étaient dirigées par des femmes. Donc, il y a un peu toujours fait, c'est, je crois que c'est le propre finalement de tout roman historique, de toute nouvelle historique. Il y a toujours ce dialogue entre le réel du passé et puis l'imaginaire, la façon dont on habite un personnage ou une époque ou un milieu social.
Alors, j'ai envie comme ça, Michel, si vous n'avez pas d'inconvénient, de traverser ces récits avec, voilà, moi, ce que j'ai pu y entendre, ce que j'ai appelé des thèmes. Par exemple, vous vous êtes aussi intéressé au sujet des conflits dans l'Église protestante, ce qui semble peut-être plus particulier finalement, moins commun, moins dans le bien public, dans le bien commun de notre société française. Mais l'oisillon qui se déguisait en corbeau, c'est vraiment, vous mettez en scène vraiment ces conflits entre une église libérale, on pourrait dire, et une église plus conservatrice.
Oui, pas l'oisillon qui se déguisait en corbeau, c'est né de façon amusante d'une sortie paroissiale qu'avait organisée notre pasteur et dans la région de Genève, hein, et en particulier, on avait découvert donc tout un milieu protestant, et au retour de cette balade, enfin, j'ai imaginé cette histoire, hein, comment finalement un petit pasteur aurait pu entrer en dialogue avec Madame de Staël. Et alors, je lui prête une longévité extraordinaire, comme à ma bonne grand-mère huguenote d'ailleurs, hein, puis oui. Traverse pratiquement tout le siècle, hein, et il est témoin effectivement de toutes ces luttes qu'il peut y avoir au sein de l'Église protestante. Hein. Et puis, j'ai imaginé aussi le sort d'un jeune pasteur, hein, tout à fait à la fin du 19e siècle, hein, qui assiste un peu désolé à ces luttes internes à l'Église protestante. Et puis il tombe mal puisqu'il est pas, il est finalement nommé dans une paroisse où il n'est pas dans son univers spirituel habituel. Ça se passe plutôt mal.
Alors il y a aussi le thème de la politique avec l'affaire Dreyfus et puis et cette prise de position finalement de la figure de pasteur.
Oui, alors là, c'est intéressant, votre remarque, parce qu'effectivement, ça me permet de repérer un peu quelles ont été mes sources. J'ai cité tout à l'heure les historiens, Patrick Cabanel en particulier, mais il y a aussi des sources beaucoup plus humaines. Et en particulier, c'est cette façon dont certains pasteurs, très courageusement, ont pris position au moment de l'affaire Dreyfus. C'est en fait une histoire qui s'est passée dans ma propre paroisse, la paroisse de Lyon-Thérault, hein, où effectivement le pasteur Ollard, un beau jour, est parti comme en procession, hein, à la tête de tout un groupe de sa paroisse et s'est mis à apostropher la foule, hein, sur la grande place Bellecour de Lyon, hein, pour soutenir, hein, le capitaine Dreyfus et l'injustice dont il était victime. Il y a une autre nouvelle qui est aussi inspirée par l'histoire propre de ma paroisse. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est vraiment le témoignage d'une dame âgée que j'avais visitée, qui est décédée maintenant, hein, qui me racontait comment, dans sa jeunesse, elle, émerveillée par le pasteur de Purie, hein, elle avait assisté avec désespoir à son arrestation par la Gestapo, parce qu'il avait pris position très courageusement pour la résistance spirituelle. Et on raconte que les chefs de la résistance à Lyon, comme Henri Freinet, Bert Albrecht, etc., venaient assister au culte pour entendre ce petit pasteur qui disait ce qu'il pensait et ce qu'ils exprimaient dans les publications clandestines de la résistance.
Alors, nous l'avons dit, Michel Barlot, ce sont des nouvelles, des chroniques, comme l'éditeur a lui aussi choisi le titre. Est-ce que c'est aussi un titre que l'éditeur a choisi, Michel Barlot, Chronique Huguenote, ou est-ce que vous avez eu votre mot à dire ?
En fait, le livre au départ s'intitulait « Chronique huguenote partant de malheur ». Et puis l'éditeur a trouvé que ça ne faisait pas très vendeur, ce temps de malheur, donc il a coupé la fin du titre. Parce qu'effectivement, enfin, c'est presque toujours dans des situations de crise, même s'il y a en même temps beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance.
Oui, c'est vrai que vous me faites penser à cette nouvelle petite enfant qu'on appellera prophète du Très-Haut, où là, c'est un temps de crise et puis un temps de vie cachée aussi pour ces protestants.
Oui, c'est l'histoire de ces petits prophètes, hein, oui. Parce qu'effectivement, ils ont souvent véhiculé la parole, ils ont été chargés de transmettre des messages, etc. Et puis, il est arrivé qu'il se passe en eux des phénomènes de prophétie. Alors, ça peut s'expliquer de façon tout à fait naturelle. Hein, là, le petit enfant qui a été chargé de transmettre un message se met tout d'un coup à réciter le début du préambule de l'évangile de Jean en grec, alors qu'il n'a jamais appris. Ça peut s'expliquer très naturellement, mais enfin, c'est quand même assez impressionnant.
Oui. Alors, on l'a dit, ce sont des nouvelles, mais il y en a une d'entre elles qui est construite autour d'un journal, celui d'un instituteur, Daniel Miguet, que vous intitulez « Une amitié inattendue ». Alors, je n'ai pas compris si le journal existait réellement. Parce que vous faites allusion en note du titre à une rencontre que vous avez eue avec un prêtre rencontré à Petit-Chêne dans l'Isère en 1960.
Oui, donc cette nouvelle raconte l'amitié tout à fait inattendue entre un instituteur de l'école laïque et qui est très marqué par sa culture protestante, enfin, qui, pour simplifier, disons, c'est un protestant libéral, hein, et puis le curé de son village, du petit village de Petit-Chêne, où il a été, on pourrait dire, bombardé. Hein, et puis il y a toute une amitié qui se lie entre ce instituteur laïque et puis ce prêtre catholique très très ouvert. En fait, il est tellement ouvert même qu'il va se faire démettre, hein, parce que il est partisan, enfin, de ce que les catholiques considéraient comme l'hérésie moderniste. Hein, et en fait, il y a une véritable fraternité spirituelle qui s'établit entre eux deux. Alors, c'est une histoire qui est complètement imaginaire, enfin, encore qu'elle repose sur cette vérité historique. Effectivement, il y avait une grande similitude entre les recherches de ces exégètes catholiques accusés et parfois condamnés pour, entre guillemets, hérésie moderniste, et puis la recherche biblique protestante de type libéral. L'histoire est complètement inventée. Simplement, je l'ai situé à Petit-Chêne, c'est un tout petit village du Dauphiné, enfin, au bord du lac de la Fraye, hein, où effectivement, lorsque j'étais étudiant, j'avais rencontré un beau matin d'hiver un vieux prêtre qui avait été exilé là par son évêque. Il était lui aussi mal vu. Mmh. Ça faisait des dizaines et des dizaines d'années qu'on l'avait oublié dans ce petit village fort désagréable.
Alors, le journal de l'instituteur en question, Daniel Miguet, il est aussi inventé.
Oui, oui, il est complètement inventé, oui.
Vous avez écrit ce journal.
C'est ça, oui. J'ai longtemps été professeur. D'ailleurs, l'un de mes tout premiers livres s'appelait « Le journal d'un professeur débutant ».
D'accord. Et puis, la dernière nouvelle, elle se situe le 20 août 2087. Et là, à travers elle, on retrouve votre dada, l'œcuménisme. Demain, peut-être, s'il plaît à Dieu. Elle est merveilleuse, cette petite nouvelle. Elle est vraiment… Là, ce n'est pas un temps de malheur, c'est une espérance.
Oui. Alors, effectivement, la toute dernière nouvelle que j'avais proposée pour le recueil, c'était aussi une nouvelle de religion-fiction, c'est-à-dire en essayant d'imaginer ce que pourrait être le futur religieux pour nous. Et ça se passait très mal, hein, c'est-à-dire que la France était tombée sous la coupe d'un dirigeant catholique, intégriste, extrêmement étroit, qui envoyait les pasteurs en camp de concentration, dans les mines de sel, etc. Et l'éditeur a trouvé que non, que c'était vraiment trop sinistre. Hein, décidément, c'est lui beaucoup qui est intervenu pour que mon recueil de nouvelles ait un ton beaucoup moins sinistre. Imaginez, non, essayez d'imaginer quelque chose de positif. Alors effectivement, j'ai imaginé un avenir tout à fait positif, un temps où toutes les églises chrétiennes chrétiennes seraient réconciliées, enfin, vivraient en harmonie, enfin, tout en gardant chacune leur tradition spirituelle, mais en même temps, tout ça se passerait dans la joie. Hein, et du coup, ça fait une nuance vraiment d'espérance qui finit. Qui finit le livre. Je crois que l'éditeur a eu raison.
j'ai le sentiment, à lire cette nouvelle, que vous visualisez une église moins institutionnellement installée. Vous parlez de desservants, de desservantes, de communautés chrétiennes. Vous évoquez un temps où l'engagement se fait sur 4 ou 5 ans. J'ai l'impression d'imaginer une église dynamique, une église en mouvement, une église qui ne s'assoit pas sur finalement une histoire non plus, bien que l'histoire soit rappelée, c'est vrai.
Oui, je crois qu'en fait, c'est un christianisme réconcilié. Enfin, les différentes églises, finalement, fonctionnent de concert, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'elles jouent la même partition en même temps, mais en même temps, chacun conserve ses particularités, ses souvenirs, sa façon propre de goûter la parole de Dieu. Mais en même temps, tout ce petit monde fonctionne en harmonie. Hein, comme vous disiez, les desservants, on ne parle plus de prêtres ni de pasteurs, les desservants s'engagent pour quelques années seulement pour exercer leur ministère.
Alors, il y a une phrase aussi que j'ai envie de vous rappeler. Je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être pas de toutes vos phrases, mais alors vous dites, donc c'est à la page 209, « Une fois de plus, l'érudition s'était révélée un écran de fumée qui masque la réalité. » J'aime beaucoup cette phrase, surtout que lorsqu'on connaît vos titres, lorsqu'on connaît votre érudition à vous-même, votre savoir, votre connaissance de l'histoire, en philosophie, on a dit tout à l'heure, vous étiez docteur en philosophie. J'aime entendre de votre part cette phrase-là, où l'érudition finalement peut être aussi un écran de fumée, un piège, une tromperie aussi finalement. Ou bien est-ce que vous diriez les choses autrement ?
Ah, c'est vrai, j'avoue que je ne me souviens pas toujours des phrases que j'ai écrites. Donc, dans le contexte, si je me souviens bien, et donc il s'agit de cette nouvelle de religion fiction, hein, et on imagine un concile Vatican III, non plus Vatican II, et effectivement, l'érudition peut être un écran de fumée qui masque la réalité, comment dire. Parce que souvent, enfin, les églises, comment dirais-je, rappellent leur passé, enfin, rappellent les phrases qui ont été dites autrefois. Et alors, effectivement, si on coupe ces phrases de leur contexte, hein, souvent, on peut les comprendre tout à fait de travers. D'abord, parce qu'on projette sur elles notre façon actuelle de voir les choses.
Surtout que vous imaginez dans cette église des personnes qui n'ont pas du tout ce passé en tête, qui arrivent là comme des servants ou comme membres de la communauté, et qui la Saint-Barthélemy, pour eux, ça n'évoque rien. Vous montrez Barthélemy, ah bon, mais pourquoi on dit là alors que Barthélemy est un homme, enfin, est masculin. Donc, vous montrez bien aussi qu'il y a aussi quelque chose à reconstruire à partir de cette connaissance de l'histoire et qu'on ne peut pas se contenter juste de belles phrases, comme vous dites. Non, il faut creuser un peu plus.
Oui, enfin, comme on dit souvent, l'histoire, c'est la meilleure façon de comprendre le présent, hein, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans le passé, mais au contraire, utiliser les leçons du passé pour mieux conduire son présent.
Alors, Michel Barlot, on s'est parlé récemment pour un ouvrage théologique. Vous avez aussi évoqué votre témoignage sur votre choix d'être protestant. Là, vous vous attelez, enfin, vous avez déjà, vous nous l'avez dit, écrit des fictions. Est-ce que le fait d'utiliser l'histoire comme appui est une aide ou est-ce une contrainte qui vous plaît finalement? Parce que je trouve aussi que malgré tout, cette fiction-là, moi, j'aurais bien aimé qu'elle se déroule un peu plus loin, la dernière.
Plus loin, en quel sens ?
Plus loin, c'est-à-dire, je vais dire, j'aurais aimé en savoir plus sur cette église, comment est-ce qu'elle allait évoluer, comment elle se construisait, quelles étaient les relations entre les gens. En faire, rien qu'elle toute seule, une grosse nouvelle.
Oui, mais je crois que c'est bien ce que vous dites, parce qu'en fait, comment dirais-je, quand on écrit un roman, par exemple, ou un essai, peu importe, hein, c'est ensuite au lecteur de continuer le travail.
Oui.
C'est bien si ça peut donner envie au lecteur de continuer à imaginer, mais surtout dans la direction que vous dites, c'est-à-dire construire le passé. C'était un peu un de mes slogans, hein, devant mes étudiants, je leur disais souvent, il n'y a rien de plus réaliste que de rêver, parce que si vous rêvez pas d'un monde meilleur, souvent en face de moi des étudiants qui avaient une grosse formation scientifique, c'était de futurs ingénieurs, hein, si vous ne rêvez pas de nouvelles mécaniques qui faciliteront la vie des gens, ben vous ne les ferez jamais. Si vous ne rêvez pas d'un monde meilleur, ben vous ne le ferez jamais. Alors je crois que c'est pareil, enfin, j'aurais envie de vous dire, continuez à rêver d'une église meilleure, et puis c'est sans doute la meilleure façon peut-être de la faire se réaliser un jour.
Oui.
C'est alors, bien finalement que ces nouvelles puissent donner à rêver et à espérer.
Mais oui. Alors, je me suis aussi interrogée sur la quantité, 14 nouvelles, donc 13 vraiment ancrées dans une histoire commune du protestantisme. Est-ce que vous avez dû en supprimer? Est-ce que vous en avez écrit puis supprimé parce que l'éditeur vous aurait dit « Ah non, mais attendez Michel, il faut que ça fasse 200 pages et pas plus ».
Ah oui, non, ça n'a pas été le cas. Non, simplement, comme je le disais tout à l'heure, il a souhaité qu'on finisse sur une note plus positive et plus pleine d'espérance. Donc, j'ai supprimé cette nouvelle vraiment très, très sinistre, hein, où les pasteurs se retrouvaient en camp de concentration, etc. Et puis, c'était pas mal, finalement, parce que la première nouvelle donc se passe pendant la nuit de la Saint-Barthélemy. Puis, dans cette dernière nouvelle, oui. L'Église s'est tellement améliorée, les Églises se sont tellement réconciliées qu'une jeune desservante ne sait pas du tout ce que c'est que la Saint-Barthélemy. Je trouve ça merveilleux.
Oui, c'est ça. Il y en aura d'autres sous le coude, Michel, hein, des nouvelles historiques?
Peut-être.
À voir, à suivre.
Oui, je suis de nouveau en train de lire un livre sur l'histoire du protestantisme, plus précisément le beau livre là, sur l'histoire de l'Église réformée de France. Alors, ce n'est pas impossible que ça réveille les petites fibres de romancier tout à fait miniatures qui sont en moi. Peut-être.
Alors, j'y veillerai. Je serai vigilante à votre actualité.
Merci
Michel. Michel Barlot, vous venez de publier Les Chroniques Huguenotes aux éditions La Cause. Au revoir.
Merci, au revoir.